Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Deux veloutés d'asperges et ravioles de gambas et à suivre deux sautés de veau printaniers. En dessert, on aura deux tartes aux pommes.
Deux plats du jour et deux cafés. Les restaurateurs ont retrouvé aujourd'hui leurs clients et l'atmosphère du coup de feu de midi après quasiment 3 mois de fermeture.
C'est la phase 2 du déconfinement avec levée des restrictions et réouverture des collèges dans les anciennes zones rouges.
Ça nous fait plaisir de revoir tous les enfants. Là, c'est vrai que là, ça nous fait du bien. Là, maintenant, ça y est, la machine est relancée.
Nous serons dans le Nord. Dans ce journal aussi, l'État valide le prêt accordé à Renault après des garanties sur le site de Maubeuge.
Les listes déposées pour le second tour des municipales et puis les alliances, évidemment, qui vont avec.
Socialistes et écolos, main dans la main à Paris, mais pas à Strasbourg. Aux États-Unis, Donald Trump, président de la loi et de l'ordre, pose avec une Bible.
Et ça a largement fait réagir. Et puis la nouvelle chaîne qui diffusera la Ligue 1 s'appellera donc Téléfoot.
Le groupe Mediapro signe un accord avec TF1 et récupère en prime les commentateurs stars de la Une.
Notre célèbre duo Grégoire Margoton, Vicente Lizarazu va commenter les 20 plus belles affiches du dimanche soir sur la chaîne Téléfoot.
Alors ça c'est pour le dimanche soir, mais quel autre présentateur? C'est le patron de Mediapro lui-même qui a choisi Europe 1 ce soir pour s'en expliquer. Il est mon invité à la fin du journal à 18h20. Soyez au rendez-vous.
La Bourse de Paris en forte hausse ce soir, plus 2% à 4858 points.
Et bonsoir Anissa.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
La couleur du ciel demain avec vous.
Eh bien demain nous avons une invasion incroyable de nuages, d'averses, d'orages et de grêle. C'est un véritable changement de temps pour demain. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
Les tables avaient disparu des terrasses depuis plus de 10 semaines. Tout comme les clients des restaurants, des bars et des cafés. C'est une part de la vie d'avant que nous avons retrouvée aujourd'hui avec quelques règles supplémentaires de précaution. Mais surtout dans une situation d'urgence économique pour beaucoup de professionnels. Alors les salles étaient-elles pleines? Pierre Herbulot, vous avez passé le service de midi dans l'Oise à la Grange au Loup. Est-ce que les clients sont bien revenus?
C'est simple, ici, avec les aménagements, le restaurant pouvait faire 30 couverts. Il y a eu 30 clients, complets d'emblée, inespérés pour le chef Dorian Vicard.
Très content parce qu'on a démarré ce matin avec 4 réservations. Donc vraiment une peur de se dire est-ce que la clientèle va revenir. Et puis au final, toute la semaine là est pleine avec 30 couverts le midi et 30 couverts le soir. C'est motivant pour les prochains jours. Oui, ça pouvait pas mieux se passer.
3 risottos et 2 canettes pour la 12, une panna cotta et un café pour la 23. Les commandes ont fusé pendant le service. Le pauvre Stéphane, en salle, a couru dans tous les sens. Je dis le pauvre, mais lui aussi a adoré.
C'est du bonheur de reprendre après 2 mois et demi de repos, on va dire.
68€ par carte, s'il vous plaît. Eliane et Didier règlent leur addition. Comme tout le monde au restaurant, ils voulaient participer à cette grande réouverture qui ressemblait d'ailleurs beaucoup à l'avant-fermeture.
On connaissait le restaurant, donc on était ravis de voir qu'aujourd'hui il rouvrait parce que c'est le seul qu'on ait trouvé dans la région. Et on n'est pas déçus parce qu'il est toujours très bien. Il n'y a pas de souci. On n'a pas senti de contraintes, à part mettre le masque pour rentrer, mais à part ça, on a trouvé que c'était comme avant, oui.
Oui, il y a de l'espace dans ce restaurant, les tables ne sont pas bleues. Les unes sur les autres, donc il n'y a pas de souci.
Des fournisseurs qui répondent présents, du soleil, des clients au moins jusqu'à la semaine prochaine, comme un alignement des planètes pour le restaurateur qui retrouve un peu de sérénité.
Pierre Herbulot à Apremont dans l'Oise.
Alors manger au restaurant, boire un café en Ile-de-France, c'est uniquement en terrasse que cela est possible. Hein. Mais nous avons maintenant tous le droit de bouger au-delà même des 100 km.
Début de la phase 2 du déconfinement qui concerne aussi les établissements scolaires, reprise progressive des lycées en zone verte et des collèges qui n'avaient pas ouvert dans les anciennes zones rouges. Par exemple, dans le Nord, où vous êtes Lionel Gougelot, les premiers élèves de 6e, 5e ont fait leur retour en classe.
Et oui, et quoi de mieux qu'une séance de gym sous le soleil pour reprendre le contact avec les copains dans un collège Saint-Exupéry qui revit sous le regard ému de Nathalie, la directrice des classes de SECPA.
Ça nous fait plaisir de revoir tous les enfants. Là, c'est vrai que là, ça nous fait du bien. Là, maintenant, ça y est, la machine est relancée.
Au deuxième étage du bâtiment, changement d'ambiance, cours de maths pour cette classe de 6e, flacon de gel hydroalcoolique sur chaque table espacée d'un mètre. Faustine reprend ses marques tout doucement.
Ça fait juste un peu bizarre de voir les profs avec des masques et ne pas être plus proche de nos amis. On est obligé de toute façon.
Le professeur Abdelatif a gardé le contact avec ses élèves via Internet durant le confinement, mais il va falloir quand même une petite remise à niveau.
On va essayer de voir un petit peu comment on va essayer de trouver les bonnes solutions pour pouvoir, un, rattraper le retard et essayer de consolider un petit peu les notions qui sont passées. Mais j'ai pas une grosse crainte.
Ici, la moitié des élèves de 6e, 5e ont répondu présent pour cette rentrée. Un bon début, selon Sylvain Fasquel, le principal.
Puis on a surtout des familles qui nous appellent depuis ce matin afin de prévoir l'arrivée de leur enfant dans les jours qui viennent. Donc je pense que ça va monter également en puissance. Les gens se rassurent un peu en voyant le protocole qui a été mis en place dans l'établissement.
Car c'est bien la confiance des familles dans la sécurité sanitaire du collège qui permettra de limiter au maximum le risque de décrochage pour certains élèves.
Lionel Gougelot en ligne depuis le collège Saint-Exupéry près de Lille. Des élèves donc peu nombreux et pas partout. Hein. Le ministre de l'Éducation nationale espère qu'un million de collégiens sur 3 millions pourront reprendre dans les prochains jours. Jean-Michel Blanquer qui concède une situation imparfaite hein, dans les établissements scolaires.
Et puis, il y a eu un peu de retard aussi à l'allumage pour l'application mobile Stop Covid.
Annoncée pour midi, elle est apparue vers 16h sur le Google Store, téléchargeable donc si vous avez un mobile sous Android. En revanche, toujours pas chez l'Apple Store des iPhones ce soir.
Nouvelle étape donc du déconfinement, le retour des jours heureux, c'est ce qu'a tweeté le président Emmanuel Macron aujourd'hui même.
Des jours heureux en terrasse au soleil, c'est certain. Mais sur le plan économique, ce sont des jours bien plus sombres qui arrivent. Le gouvernement anticipe maintenant une récession de 11% cette année. Encore plus que les 8% qui étaient évoqués jusque-là. Un nouveau projet de budget sera présenté la semaine prochaine et le président va recevoir jeudi à l'Élysée l'ensemble des partenaires sociaux, syndicats et organisations patronales pour travailler à préserver l'emploi. Voilà ce qu'indique l'Élysée.
Alors en parlant emploi, dans le dossier Renault, les représentants des salariés de l'usine de Maubeuge ont été reçus aujourd'hui même à Bercy, ainsi que le PDG du groupe, Jean-Dominique Senard. Et le gouvernement a validé, Aurélien Fleureau pour Europe 1, a validé le prêt garanti par l'État.
Oui, pour Bercy, il fallait d'abord que la réunion de ce matin se déroule de manière positive, c'est-à-dire que la direction de Renault rassure, s'engage sur l'emploi à Maubeuge après 2023, date qui était vue comme une date couperet par la plupart des salariés si l'essentiel de leur activité se trouvait transféré à Douai, autre usine Renault 70 km plus loin, qui elle produit des modèles qui vont s'arrêter comme Espace, Scénic ou Talisman. C'était donc le dernier point à régler pour que le ministère de l'économie signe finalement ce prêt garanti par l'État de 5 milliards d'euros. Les représentants syndicaux de l'usine et les élus locaux comme Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, ont fait part de leur satisfaction. L'usine MCA ne deviendra pas une coquille vide, elle devra faire partie intégrante du projet de pôle d'excellence sur le véhicule électrique basé dans la région. Mais de l'inquiétude, il y en a encore beaucoup chez les salariés de Renault, ceux de la fonderie de Bretagne par exemple. Ils sont certes soulagés de ne pas voir leur usine fermée, mais ils s'interrogent tout de même sur une possible cession. Et puis sur le seul site amené à fermer, à Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne, une grève reconductible a été lancée ce matin.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1, des inquiétudes sur l'emploi aussi dans le secteur aéronautique. Les salariés d'un sous-traitant d'Airbus de Richebourg à Toulouse ont manifesté aujourd'hui. Ils craignent pour 700 postes. On va y revenir à 19h et au sein de l'équipementier Safran. Les emplois supprimés là en Europe pourraient se chiffrer en milliers.
On regarde maintenant du côté des commerçants. Eux ont obtenu gain de cause. Les soldes d'été vont bien être décalés cette année. Hein.
Top départ le 15 juillet au lieu du 24 juin. Elles vont durer 4 semaines. Venons-en au dossier des municipales. Ça y est, le délai a expiré à 18h. Toutes les listes sont déposées en vue du second tour qui aura lieu le 28 juin dans quelques 5000 communes. Et ces listes ont fait l'objet d'ultimes tractations ces dernières heures.
Alors à Paris, dans la capitale précisément, Anne Hidalgo s'est affiché cet après-midi avec son allié, l'écologiste David Béliard. Un accord qui la place en position très favorable. Et à Bordeaux, le dauphin d'Alain Juppé, Nicolas Florian, a enregistré le soutien du candidat de La République En Marche.
Et puis il y a le cas particulier de Strasbourg, où aucune alliance ne s'est nouée. Arthur Henbaché, du coup, il faudra choisir entre 4 candidats au second tour.
Et je vous laisse imaginer, en entendant ce qui suit, la douce ambiance des négociations vers PS ces dernières heures. Sébastien, petit rappel, la jeune écolo Jeanne Barseguian a fait 28% en mars. L'ex-maire et ex-ministre socialiste, période Jospin, Catherine Trottmann, a fait 20%. Voilà ce qu'elle dit de ceux qui auraient pu être ses alliés pour une victoire quasi assurée.
Je déteste qu'on nous prenne pour des idiots. Et je déteste qu'on veuille tout simplement nous marcher sur la tête. Mais il faut jamais mépriser un adversaire, jamais. Donc nous allons continuer, je vais continuer avec la dynamique de ma liste, avec mes colistiers. Tous m'ont dit, Catherine, nous serons à tes côtés, quoi qu'il arrive.
Réponse de la candidate verte, trop gourmand les socialistes.
Ce qui nous a été opposé sans cesse, c'est de dire que cette fusion ne pourrait se faire qu'à la condition d'un soutien à la présidence de Catherine Trottmann à l'Eurométropole. Mais je ne peux pas me voir imposer des conditions pareilles. Ce n'est pas possible. On ne peut pas résumer notre avenir et l'avenir de notre ville à une question de place.
Tout ça redonne sans doute le sourire aux équipes du candidat En Marche, Alain Fontanelle, 20% En Mars. Une fusion à gauche l'aurait achevée. Il vient tout juste de déposer sa liste à la préfecture. Et en fait, on ne sait pas encore s'il y a eu un accord surprise sur le fil avec le quatrième prétendant, Jean-Philippe Véter, Les Républicains, qui pèse quand même, d'après le premier tour en mars, 18%.
Voilà, Arthur Mbaché à Strasbourg, ville qui sera évidemment très surveillée. 28 juin, date du second tour des municipales.
Et ces municipales en amont d'ailleurs, on en parle avec les grandes voix ce soir, Gérard Carrérou, Charles Villeneuve dans ce studio, dans 20 minutes maintenant à 18h30, pour refaire le tour des alliances, zoomer sur les villes, celle de Lyon par exemple, où Gérard Collomb, on le sait, s'est rapproché des Républicains.
L'ancien homme d'affaires Pierre Botton va retourner en prison près de 25 ans après sa première condamnation dans les années 90. Il a écopé aujourd'hui d'une nouvelle peine de 5 ans de prison ferme pour abus de biens sociaux. En son absence, un mandat d'arrêt a été délivré contre lui. Et puis les époux Balkany vont se pourvoir en cassation pour contester leur condamnation en appel à 4 et 5 ans de prison ferme pour blanchiment de fraude fiscale.
Europe 1.
Votre grand journal du soir, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy. Aux États-Unis, Donald Trump, une Bible à la main. Ce président se pose en président de la loi et de l'ordre. Ça fait évidemment couler beaucoup d'encre. C'est à suivre dans votre journal de 18h.
Et puis Téléfoot va devenir une chaîne. Et c'est elle qui diffusera la Ligue 1.
18h12 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy. L'actualité outre-Atlantique, ce sont de nouvelles scènes de pillage. Hier soir, en plein cœur de Manhattan, le couvre-feu d'ailleurs prolongé à New York jusqu'à dimanche désormais.
Un couvre-feu qui est aussi en vigueur désormais dans plusieurs dizaines de villes. La tension ne retombe pas aux États-Unis sur les questions raciales, même si les débordements ont été plus contenus la nuit dernière. On retient la riposte de Donald Trump, son discours martial, Rémi Bossaron, puisqu'il menace maintenant d'envoyer l'armée.
Et oui, ce sont les mots qui barrent la une de tous les grands quotidiens nationaux aujourd'hui aux États-Unis. Trump en appelle à la force. Trump mobilise les troupes. Trump menace d'envoyer l'armée dans les États. Le message du président américain est donc bien passé. Ce message qu'il a adressé au gouverneur, il l'a dit, si un État refuse de prendre les décisions nécessaires pour défendre la vie et les biens de ses résidents, je déploierai l'armée américaine pour régler rapidement le problème à leur place. Et il en rajoute à l'instant sur Twitter un message qui s'adresse à New York, où il y a eu donc des pillages hier. New York mobilise la garde nationale. Les lascars et les losers sont en train de te réduire en miettes. Aucune nuance dans le propos, donc ça ressemble à un discours de campagne. Et quand Trump pose hier devant l'église Saint-John, endommagée à Washington, avec sa Bible à la main, cela ressemble à une image de campagne. Il vise son électorat et Joe Biden lui répond aujourd'hui. Le candidat démocrate à la Maison-Blanche veut lui se montrer rassembleur. Il l'a dit il y a quelques instants dans son discours à Philadelphie. Il promet de ne semer ni la peur ni la division.
Le récit de Rémi Bossaron pour Europe 1.
Tout à fait autre chose, gros changement du côté du foot. La Ligue 1, lorsqu'elle reprendra la saison prochaine, sera diffusée par une nouvelle chaîne et elle s'appellera, je vous le donne en mille, Téléfoot.
Vous connaissez bien cette marque, c'est le nom du magazine historique de TF1. C'est le groupe sino-espagnol Mediapro qui va la lancer. C'est lui qui détient à présent les droits du foot français et il vient donc de signer un accord avec TF1, Cyril de la Morinerie.
Oui, d'abord, Mediapro a obtenu le droit d'utiliser le nom de Téléfoot pour les 4 prochaines années. L'émission dominicale de TF1, créée en 1977, a 4 millions de fans sur YouTube. Ce partenariat inédit va donc apporter un surcroît de notoriété à cette nouvelle chaîne, explique son directeur de la rédaction, Julien Bergeau.
L'essentiel, c'était de trouver la bonne association avec un partenaire fort qui parle à tous les Français.
TF1 va également produire quelques émissions pour la chaîne et prêter, si je puis dire, ses 2 commentateurs vedettes, confirme François Pélissier, le patron des sports de TF1.
Notre célèbre duo, Grégoire Margoton, Bichente Lizarazu, va commenter les 20 plus belles affiches du dimanche soir sur la chaîne Téléfoot.
Mais attention, pas d'OMPSG ou de Monaco-Lille sur TF1 et TMC. Le partenariat s'arrête là. Pour voir la Ligue 1 et la Ligue 2, il faudra se brancher sur la chaîne Téléfoot, qui sera payante. Il faudra débourser 25 euros par mois et elle sera disponible uniquement sur les box à partir du mois d'août.
Voilà les précisions de Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1.
Et un peu plus de précisions encore avec un invité exclusif ce soir sur Europe 1. Là, dans 5 minutes, Raoum Arourès, le patron de Mediapro, en exclusivité, sa première interview depuis cette annonce, depuis ce partenariat signé. Il est mon invité. Merci beaucoup Sébastien Krebs.